Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour Richard, pour ses connaissances, sa sensibilité. Merci de ce qu'il est ton porte-parole ce matin. Aide-nous à accueillir ce que tu as à nous dire au travers de lui ce matin. Amen.
Amen. Merci. J'aimerais comme... Est-ce qu'on peut remettre le premier slide du premier chant? C'est pas prévu, mais on va le relire. Est-ce que c'est possible? Voilà. C'est tellement... correspondant à la prédication, que j'ai été impressionné, et je vais le relire. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Voilà, je vous remercie. Alors aujourd'hui, nous nous pencherons sur le deuxième chapitre de la lettre aux Éphésiens. Mais d'abord, un petit mot d'introduction. Dans le premier chapitre, donc juste avant, l'apôtre Paul a commencé par nous rappeler ce que le Seigneur avait prévu pour nous tout au départ. Même avant la création. Et ça, jusqu'à ce que le péché soit entré dans le monde. Et puis après ça, toujours au chapitre 1, Paul nous a montré la réparation, la guérison, on pourrait dire, que le Seigneur a opéré en nous. En plus clair, alors, tout au départ, avant la fondation du monde, Dieu nous avait élus pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Et puis, après la chute, il nous a accordé le pardon des péchés, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, nous avons été scellés du Saint-Esprit, et Dieu nous a fait connaître le Christ. Autrement dit, à travers toute son œuvre de guérison et de salut, le Seigneur nous a ramenés et il nous ramène encore dans son projet initial pour nous. Alors voilà pour le chapitre 1. Et maintenant, dans notre texte, au chapitre 2, Paul nous montre, pour tout ça, quel cheminement le Seigneur nous fait suivre. Et puis 2, qu'est-ce qui rend ce cheminement possible? Et puis 3, surtout, quelle doit être notre participation à ce cheminement? Alors, on va regarder le texte. D'abord, Éphésiens 2, verset 1. Je vous lis. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Ici, Paul montre aux Éphésiens, en fait, comment ils étaient avant de rencontrer le Seigneur, avant de croire. Bon, ça, évidemment, c'est le point de départ de toute l'humanité. Et puis, bien sûr, tout ça, nous le savons déjà. Néanmoins, écoutons bien le texte. En fait, nous aussi, autrefois, nous étions morts par nos fautes et par nos péchés. Mais pourquoi deux mots? Parce que c'est deux choses différentes. Le mot « faute », ici en grec, dans la langue originale, il veut dire « violation, échec ». Et il est tiré d'un mot qui signifie action de tomber. En français, c'est notre mot « chute hein, ». Chute, tomber comme ça. Et le mot « péché » veut dire « action de rater la cible ». Autrement dit, ce qui nous maintenait autrefois dans l'amour, c'était d'une part notre détournement de l'autorité de Dieu sous la poussée de ces choses qui nous font tomber, et puis d'autre part aussi notre marche générale qui se passe plus ou moins de temps en temps en dehors du chemin de Dieu, sous la poussée ben justement de ces choix plus ou moins bons qui nous amènent à rater la cible. Et tout ça, autrefois, ça nous maintenait dans la mort, parce qu'à ce moment-là, nous étions constamment dans cet état de perdition, avec impossibilité de pardon. Écoutez le verset 2. Pour vous, Alors, vos fautes et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, vous marchiez. Dans la langue originale, ce verbe, il signifie circuler, se promener là où on en a envie. Autrement dit, nous nous baladions en dehors du chemin de Dieu, mais par choix. Et ça nous plaisait comme ça. Et nous n'avions aucune intention avant de venir sur le chemin de Dieu pour être pardonnés et être sauvés. Et nous marchions, je lis, selon le cours de ce monde. Nous nous laissions simplement porté par les valeurs ambiantes et les habitudes du monde normal. Et regardez la suite. En faisant cela, sans nous en rendre compte, nous marchions selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire selon l'ennemi du Seigneur, cet ennemi qui s'enfile partout, comme l'air de nos vies. En fait, nous marchions sur son chemin, sous sa direction. Nous étions comme soufflés en avant par lui, lui qui est cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous ne le savions pas, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, nous étions nous aussi perdus, loin du Seigneur et par nature, avec impossibilité de faire autrement. Paul dit bien ici les fils de la rébellion. Et il développe. Lisons le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions, par nature, des enfants de colère comme les autres. Tout d'abord, intéressant, Paul passe ici du « vous » au « nous ». Parce que lui aussi, il a été un fils de la rébellion, et carrément, si vous vous souvenez. Et maintenant, Paul montre ici comment nous aussi, comme tous les autres, nous étions entraînés vers la mort. Ce commun, c'était en nous conduisant selon nos convoitises. Autrement dit, en nous laissant un peu manier par nos envies, sans trop écouter la voix de Dieu. Du coup, effectivement, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. sans nous en repentir. Et du coup, nous aussi, nous étions, par nature, des enfants de colère, perdus, loin du Seigneur, sans possibilité de nous en tirer par nous-mêmes. Alors, là, il y a pour nous ici un appel. Cet appel, c'est de prendre acte. Prendre acte d'abord qu'autrefois, avant de vraiment rencontrer le Seigneur, nous étions dans cette situation de perdition. Et puis, prendre acte qu'aujourd'hui encore, cette situation de mort devant Dieu, elle reste ouverte pour nous. On peut y retourner, très simplement, juste en se laissant aller à ses convoitises. Néanmoins, intéressant, nous sommes bel et bien toujours en danger de redevenir comme des enfants de colère devant Dieu. Mais tant que nous garderons la foi, nous ne redeviendrons pas des enfants de colère par nature. Parce que même si nous chutons, nous pouvons toujours nous repentir et revenir au Seigneur. Ça, si je puis dire, grâce à sa grâce envers nous qui croyons. Et justement, dans les versets suivants, Paul va parler de cette grâce. Écoutez les versets 4 et 5. Mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors, à cause du péché, tout ce que Dieu avait créé parfait était corrompu. Et en particulier nous, qu'il a créé à son image. Nous étions définitivement perdus, mais le Seigneur est intervenu et il a ouvert un chemin de salut pour nous. Et, regardez, ce n'est pas vraiment un acte de création supplémentaire, comme les autres quand Dieu a créé le soleil. Ce n'est pas un acte de création supplémentaire du genre « Dieu dit et la chose arrive ». Ici, non, la source de l'intervention de Dieu, ce n'est pas sa puissance de création, c'est sa miséricorde. Il nous a rendus à la vie avec le Christ, au moyen du Christ, et ça, c'est un moyen qui lui a coûté cher. Voilà pourquoi miséricorde. Voilà pourquoi Paul parle ici du grand amour de Dieu. Et ça, c'est le mot agapé que nous connaissons bien. Mais le vrai agapé, ce n'est pas un amour-sentiment seulement. Le vrai agapé, c'est un sentiment qui s'auto-confirme dans un acte. Et Paul nous rappelle que c'est de cet amour-là que Dieu nous a grâce pour nous. Voilà la source de sa grâce pour nous. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et à présent, Paul va développer ce point dans deux directions. D'abord, il montre la grandeur de cette grâce. Regardons les versets 6 et 7. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. La grandeur de la grâce de Dieu, elle se voit dans la grandeur de sa bonté envers nous. Et le mot bonté ici, hein, dans la langue originale, il signifie la bonté du cœur. Et il est utilisé pour celui qui est prêt à s'investir pour l'autre. Et effectivement, Dieu ne s'est pas juste arrêté à nous délivrer de la condamnation qui pesait sur nous. Hein? Il est allé jusqu'à nous bénir au point de nous donner une place stable directement devant lui. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Et ça, aux yeux de Dieu, c'est déjà une réalité. Même si pour nous, c'est encore une sorte de quoi ? Prévisualisation de ce qui nous attend au-delà de notre existence terrestre. Mais quand même, c'est une expression maintenant de cette pleine communion avec Dieu, avec le Père dans laquelle nous avons déjà commencé à être. Et regardez, en Christ Jésus, hein, nous sommes aujourd'hui en Jésus, à l'intérieur de son œuvre pour nous, nous sommes dans son chemin, sous sa protection et sous sa direction. Alors oui, grandeur de cette grâce de Dieu pour nous. Et à présent, dans les versets suivants, Paul va nous parler de la force de cette grâce. Hein, son impact est absolu. Il y a besoin de rien de plus. Je vous lis le verset 8. Pardon. C'est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Paul reprend ici ce qu'il a dit au verset 5, hein, mais il développe. C'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Textuellement, dans la langue de base, hein, c'est à travers la foi. Du coup, la foi, ce n'est pas seulement comme un outil que Dieu utilise pour nous sauver. Mais la foi, c'est un chemin. C'est un chemin qu'il a ouvert devant nous afin que nous le prenions pour être sauvés. Autrement dit, il y a deux aspects. D'abord, nous sommes sauvés par grâce implique que c'est totalement un don de Dieu. Pour être sauvés, nous n'avons rien à faire. Hein? Aucune des œuvres que nous pourrions faire ne pourrait rajouter même un petit quelque chose à notre salut. Cependant, deux, nous sommes sauvés aussi à travers la foi. Et la foi, c'est bien un chemin dans lequel il nous faut entrer et rester. Et à présent, Paul va développer ces deux aspects. Je vous lis le verset 9. Le verset 9. Écoutez, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le verbe se glorifier ici, hein, c'est du genre se taper sur la poitrine pour souligner que « Ah, c'est moi qui ai fait ça ». Eh bien non, personne ne pourra dire « Moi, j'ai contribué à mon propre salut ». Le salut est et sera toujours un don gratuit de Dieu. Là, nos œuvres n'ont aucune influence. Cependant, regardons le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, au verset 9, Paul vient de dire « ce n'est point par les œuvres ». Et ici, au verset 10, il dit « Dieu nous a créés pour des œuvres ». Alors, comment comprendre? Eh bien, « ce n'est point par les œuvres » signifie « nos œuvres ne sont pas la source de notre salut ». Cependant, pour nous qui avons été sauvés par sa miséricorde, il y a quand même ces œuvres bonnes que le Seigneur a préparées pour nous. Il nous a créés pour des œuvres qu'il nous demande de pratiquer. En deux mots, nos œuvres pour le Seigneur ne sont pas la source de notre salut, mais elles doivent en être la conséquence. Et là, très intéressant, dans nos églises, nous avons parfois la pensée, voire la mini-ambition, de nous engager dans un truc afin de faire quelque chose pour le Seigneur. Comme si là, on allait gagner des points et contribuer à notre salut. Et puis, ou bien là, même quelque part, on a des fois l'impression que c'est nécessaire à notre salut. Mais le Seigneur a déjà tout fait. Il n'y a rien de plus à ajouter. Alors, celui qui se dit qu'il n'en a pas encore assez fait pour Dieu et qui se force à faire des choses, qui se force à trouver quelque chose de plus à faire pour Dieu, il fait fausse route. D'abord, quelque part au fond de lui, il se dit que le Seigneur n'a pas réellement tout accompli. Et puis ensuite, en faisant ce que le Seigneur ne lui demande pas de faire, il se crève à l'avance. Et il sera moins efficace quand le Seigneur va vraiment lui demander de faire quelque chose. Alors du coup, ici aussi, il y a un appel pour nous. Nous ne devons pas regarder nos œuvres pour le Seigneur comme la source de notre salut, mais nous devons les voir, les considérer comme la conséquence de notre salut et la conséquence de notre foi. Et ça implique un comportement de notre vie avec le Seigneur. Dans notre cœur, ne pas chercher à nous inventer des œuvres de Dieu, mais plutôt, quand le Seigneur met une de ses œuvres devant nous, la discerner, puis chercher à la comprendre si c'est vraiment une œuvre de Dieu, et puis à nous y engager droitement. Et là, permettez-moi une illustration. Moi, j'ai été au chômage pendant 2 ans. Et je viens de retrouver du travail. Ça, c'est dans l'accompagnement des migrants. Et puis dans le cadre d'une action commune œcuménique entre l'Église réformée et l'Église catholique. Et en regardant mon propre passé, je me dis que ça, c'est effectivement un travail pour lequel le Seigneur m'avait préparé avant, depuis longtemps. Et ça me correspond bien. J'ai étudié la théologie, J'ai été missionnaire en Afrique et en Asie pendant 12 ans, pendant 10 ans, non 12 même. Et puis, ces 10 dernières années, j'ai été engagé dans l'accompagnement des migrants, de leur insertion en Suisse. Et puis de plus, ce travail, eh bien c'est la mise en pratique concrète de « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Or, du coup, je ressens vraiment cet engagement comme la prochaine étape du chemin que le Seigneur a préparé pour moi. Et je m'y engage avec d'autant plus de paix et de joie. Alors, je conclue. Au début de l'Épître aux Éphésiens, dans le chapitre 1, l'apôtre Paul montre le projet que Dieu avait prévu pour nous au départ. Puis il montre, après que le péché soit entré dans le monde, la réparation, la guérison que Dieu a opérée en nous pour nous permettre de revenir dans son projet initial. Et puis dans notre texte au chapitre 2, Paul nous montre d'abord qu'effectivement autrefois devant le Seigneur, nous étions comme morts, par nature et sans espoir. Et Paul nous montre ensuite que nous avons été sauvés par la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire nous avons été sauvés parce que Dieu nous a aimés, non seulement d'un amour sentiment, mais il nous a aimés d'un amour vrai, un amour qui s'est auto-confirmé dans un acte de sacrifice. Et là, Paul nous parle du cadeau gratuit que Dieu nous fait ici. Sa grâce pour nous est tellement grande que le Seigneur nous promet une place assise dans son royaume, directement dans sa présence. Et puis sa grâce pour nous est tellement forte que nous n'avons rien à faire pour la mériter. Nous avons juste à entrer dans le chemin qu'il déroule devant nous et recevoir cette grâce. Et sur ce chemin, le Seigneur nous présente des œuvres à accomplir. Mais maintenant, très important, il nous faut recevoir ces œuvres comme il nous les donne. C'est-à-dire, non comme des conditions de sa grâce, mais comme des conséquences de sa grâce. Du coup, dans la vie chrétienne, dans notre vie chrétienne, ce n'est pas juste de sans arrêt chercher qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour être vraiment tout à fait sauvé. Parce que le Seigneur a déjà tout fait. Ce qui est juste, en revanche, c'est de rester attentif aux œuvres nouvelles, aux œuvres que le Seigneur met devant nous et que nous pouvons accomplir pour lui, puisque nous sommes déjà sauvés. D'ailleurs, allons un cran plus loin. En fait, les œuvres que le Seigneur met devant nous afin que nous les accomplissions, ce sont aussi des bénédictions qu'il nous donne afin de nous faire progresser sur son chemin. Des bénédictions sur mesure, on pourrait dire. Et elles font partie de sa grâce pour nous. Alors on va prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous voyons encore une fois aujourd'hui tout ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, nous te demandons de nous aider à recevoir ta grâce encore plus, à recevoir ces œuvres dans lesquelles tu nous appelles comme des bénédictions. Et puis, Seigneur, que tu nous aides à faire la différence entre là où tu nous appelles et là où on aurait la tendance à s'appeler soi-même. Seigneur, bénis notre chemin et illumine notre route. Amen.